Vous écoutez On lit pour vous.
Changement climatique, comment s'adapter, un texte commandité paru le 5 août 2024 dans la presse. Les effets des changements climatiques se font déjà sentir au Québec et ailleurs. L'accélération du réchauffement planétaire entraîne des conséquences à la fois sur les citoyens, les communautés, les infrastructures et les finances publiques. Des solutions collectives existent. Le gouvernement du Québec soutient leur mise en œuvre partout sur le territoire. Découvrez comment. Vents violents, pluies torrentielles, inondations, incendies de forêt, vagues de chaleur, les événements météorologiques extrêmes sont la partie la plus visible des changements climatiques. Or, la fréquence et l'intensité de ces épisodes sont en hausse. Et ils affectent la qualité de vie des populations. C'est pourquoi il faut s'adapter collectivement à ces répercussions tout en continuant de mener des efforts pour les limiter, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, GES. Depuis 1950, au Québec, la température moyenne s'est réchauffée de 1 à 3 degrés Celsius selon les régions. Ensemble, pour relever le défi climatique. Au cours des prochaines décennies, les coûts associés aux répercussions des changements climatiques augmenteront de façon importante. C'est pour cette raison, notamment, que le gouvernement et les municipalités du Québec travaillent de manière préventive pour s'adapter aux effets déjà perceptibles, de même qu'à ceux qui apparaîtront dans le futur. Au Canada, chaque dollar investi en mesures d'adaptation peut se traduire par une économie à long terme de 13 à 15 dollars. Des solutions concrètes aux nombreux défis qui se dressent devant nous émergent. En voici quelques-unes. 1. Gestion des berges. Les communautés et les écosystèmes côtiers sont directement touchés par les phénomènes d'érosion et de submersion. La hausse du niveau de la mer, les tempêtes et l'absence de couvert de glace mettent en péril non seulement la sécurité, mais aussi l'activité économique de ces régions. Afin de trouver des solutions à ces problèmes, l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, a développé un laboratoire hydraulique unique en Amérique du Nord. Ce vaste canal permet de simuler les effets des phénomènes environnementaux et d'identifier des approches durables pour la gestion des berges. Projet des berges résilientes ou percer, défi, protéger les berges et les infrastructures endommagées par de grandes tempêtes. Particulièrement vulnérables à l'érosion, les berges de percer ont été entièrement réaménagées. Un environnement naturel, plus résilient face à l'érosion, a été recréé en remplacement du mur de béton qui longeait le littoral. Une recharge de plages, avec des galets, a permis de protéger le littoral et une nouvelle promenade a pu être aménagée. Résidents, visiteurs, commerçants du centre-ville, tous ressortent gagnants de ce projet qui a permis de protéger ce tronçon du littoral gaspésien. 2. Verdissement des villes. De plus en plus fréquents, les épisodes de chaleur intense et de pluie abondante peuvent affecter gravement la santé et la sécurité des gens, en plus de menacer les bâtiments et infrastructures. Parmi les solutions à ces phénomènes, le verdissement des villes. Plusieurs programmes gouvernementaux permettent l'aménagement d'infrastructures vertes. Celles-ci créent des îlots de fraîcheur dans les villes et municipalités afin de contrer l'effet des canicules et de mieux absorber les eaux pluviales. Projet, une place multifonctionnelle et inondable ou, Montréal, défi, créer un îlot de fraîcheur et soulager le réseau d'égouts lors des pluies intenses. Exemple innovant d'adaptation urbaine, la place des fleurs de Macadam agit comme une éponge en retenant temporairement les eaux pluviales, ce qui enlève de la pression sur les infrastructures municipales. par beau temps, l'endroit redevient une oasis rafraîchissante, accessible à tous les citoyens. 3. Protection contre les inondations. Les crues printanières, les embâcles et les pluies torrentielles font gonfler les rivières qui risquent alors de sortir de leur lit. Pour les populations inondées, ces événements peuvent avoir des conséquences désastreuses. Pour se protéger, des villes et des villages situés en bordure des cours d'eau entreprennent de réaménager leur territoire. Projet : des mesures de protection contre les inondations ou Saint-Raymond. Défi : réduire les inondations causées par le débordement de la rivière. Plusieurs fois inondée par le débordement de la rivière Sainte-Anne, la ville de Saint-Raymond dans Portneuf a mené un exercice de réflexion en collaboration avec différents partenaires du bassin versant. Plusieurs mesures de protection ont été mises en place pour atténuer les effets de la crue printanière et des pluies fortes, dont la construction d'une structure de retardement des glaces en amont. La ville est ainsi plus résiliente. 4. Développement de pratiques agricoles plus durables. Les producteurs agricoles ressentent déjà les effets des changements climatiques, de la hausse des températures au bouleversement des saisons de croissance, en passant par les précipitations accrues, sans oublier l'apparition de nouveaux insectes ravageurs et d'espèces envahissantes. Pour atténuer ces répercussions et accroître sa résilience, le milieu agricole reçoit du soutien lui permettant de développer des pratiques plus durables. Projet Agriclimat, des fermes engagées pour le futur ou, partout au Québec, défi, outiller les producteurs agricoles face aux enjeux climatiques qui bouleversent leurs activités. Ayant mobilisé depuis 2017 plus de 4000 acteurs du milieu et avec l'aide de 75 conseillers en agro-environnement, le projet Agriclimat permet de rendre accessibles les connaissances permettant aux producteurs agricoles de lutter contre les changements climatiques à la ferme, amélioration de la santé des sols, meilleure gestion de l'eau, diminution du stress thermique des animaux, réduction des émissions de GES, etc. L'initiative vise à soutenir l'adoption de pratiques efficaces pour améliorer l'adaptation du milieu agricole aux défis climatiques. Autrement dit, Agriclimat contribue à préparer les fermes québécoises à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Les actions climatiques du gouvernement du Québec sont principalement guidées par le Plan pour une économie verte 2030. Celles-ci sont évaluées et mises à jour annuellement afin d'assurer des avancées continues en matière de lutte contre les changements climatiques. C'était « Changement climatique, comment s'adapter », un texte commandité paru le 5 août 2024 dans la presse.
Des volontaires ont défendu eux-mêmes leur localité contre les flammes. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 27 juillet 2024 dans Le Devoir. Une brigade d'une vingtaine de volontaires a repoussé elle-même un feu de forêt, mi-juillet 2024 à Argenta, une petite localité de 150 habitants de la région des Kootenays, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, avant que des pompiers arrivent en renfort. Depuis, ce groupe de citoyens, fortement engagés pour la défense de leur communauté, œuvre jour et nuit aux côtés des équipes du BC Wildfire Service pour tenter de sauver leur maison. « Je n'ai jamais vu ça dans la région. Il y a des feux partout », témoigne Louis Bockner, 34 ans, qui est né à Argenta. Le 17 juillet 2024, un orage a traversé la région, déclenchant plus d'une centaine de brasiers dans les West Kootenays. Dans notre petite vallée seulement, environ 25 feux ont été allumés cette nuit-là, dont au moins 4 autour d'Argenta. Une triste fatalité lorsqu'on vit si intimement avec la forêt, mais à laquelle Argenta était préparée. On a sorti notre équipement et on est parti sur le terrain, relate Louis, dans un mélange de fierté et de mélancolie. Il y a une vingtaine d'années, Argenta a mis sur pied une équipe de volontaires dûment certifiés qui suit tous les printemps une formation et dont la mission est de combattre les brasiers le temps que des renforts arrivent. On est très conscient que, dans un moment comme celui-ci, où il y a tellement d'incendies avec un nombre limité de ressources gouvernementales, les autorités vont devoir prendre des décisions. Et une si petite communauté comme la nôtre ne sera pas le premier endroit où les pompiers iront, fait remarquer Louis, un photojournaliste également volontaire dans cette brigade. Effort concerté. Le 18 juillet 2024, au petit matin, après que la foudre se fut abattue sur la région, une équipe de 2 volontaires est donc partie en reconnaissance sur le terrain. Elle a observé que le feu situé à proximité d'une route dans la montagne pouvait être attaqué. Au même moment, leurs confrères rassemblaient des informations auprès du BC Wildfire Service et auprès de gens de la communauté située sur l'autre rive du lac Kootenay qui borde Argenta. Ils nous ont dit qu'ils voyaient 3 panaches de fumée s'échapper de la montagne. Avec ces informations en main, des bénévoles sont allés remplir des réservoirs de plus de 100 gallons, environ 400 litres, dans une source d'eau située à 1 km, pour ensuite les monter à bord de 3 camions dans la montagne. Pendant ce temps, des tuyaux étaient déployés près du site pour pomper l'eau jusqu'au brasier. Parallèlement, d'autres volontaires ont sorti leurs pelles pour creuser des tranchées et nettoyer le sol des branches et des feuilles pouvant servir de combustible. Et des scies à chaînes ont été déployées pour abattre les arbres les plus menaçants. Un effort rapide et concerté qui a permis, en l'espace de quelques heures, de maîtriser le feu. L'intention de notre groupe, ce n'est pas de prendre le relais des pompiers forestiers. On veut simplement faire une première attaque rapide quand on le peut, indique Louis. L'intervention de la brigade a permis au BC Wildfire Service de gagner du temps pour déployer de la machinerie lourde sur le site. Mais 2 autres brasiers à proximité ont pris de l'ampleur et ont forcé un repli. Évacuation. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le vent s'est mis de la partie et un avis d'évacuation a été diffusé pour Argenta. Ça a été vraiment effrayant. Mais en 2 heures, on a réussi à alerter tout le monde et les gens ont quitté les lieux. La brigade est toutefois restée sur place. Les pompiers ont pris en charge la lutte contre les incendies alors que notre équipe s'occupe davantage de la protection des maisons en installant des gicleurs ou en couvrant les objets inflammables, par exemple. Une collaboration tout à fait unique et très positive, selon Louis. Habituellement, les équipes gouvernementales ne travaillent pas avec des bénévoles. Je pense que, généralement, c'est plus un casse-tête qu'autre chose pour elles, avance-t-il. Mais avec leur formation et leur connaissance de la localité, les membres de la brigade s'avèrent un précieux atout. On sait qu'en haut de telle allée, il y a quelqu'un qui a un étang dans lequel on peut pomper l'eau, ou qu'à tel endroit, il y a une source dans la montagne à laquelle on peut accéder par une route. Ce genre de connaissance, c'est tellement précieux. Pour l'instant, aucune maison de la communauté n'a été ravagée par les flammes. Mais la partie est encore loin d'être gagnée. Actuellement, dans le meilleur des scénarios, Argenta sera sauvée, mais toute la forêt qui nous entoure sera brûlée. Un véritable cauchemar, souffle Louis. Parfois je me sens accablé, confie-t-il, mais je me sens aussi incroyablement chanceux de vivre dans cette communauté où les gens s'aident et se soutiennent, et qui était préparée à ça. Je sens une connexion incroyable avec notre communauté. C'était « Des volontaires ont défendu eux-mêmes leur localité contre les flammes », un texte de Magdalene Boutros, paru le 27 juillet 2024 dans Le Devoir.
Acte de Dieu et Histoire d'eau. Un texte de Michel Séauger, paru le 18 août 2024 dans la presse. À l'été 2024, en quelques semaines, nous avons vécu des inondations causées par la fin de course d'un ouragan et la rupture d'une conduite d'eau majeure en plein cœur de Montréal. Les deux événements ont des points en commun. La négligence quant à l'entretien et la planification à long terme des infrastructures et le défi que posent les changements climatiques. Deux situations qu'on n'ignore pas, mais qu'on essaie trop souvent de ne pas regarder en face. Avant d'aller plus loin, un mot sur la présence ou non des dirigeants politiques sur le terrain à la suite de catastrophes comme celles que l'on a connues depuis quelques semaines. Que Valérie Plante ou François Legault soient sur les lieux dans les heures suivant un désastre n'y changerait rien. À la rigueur, leur présence pourrait nuire aux interventions des équipes d'urgence. Même si la mairesse ou le premier ministre revêtait un habit d'homme grenouille pendant toute une journée, cela ne changerait rien à l'affaire, et les juger sur leur présence ou non dans les minutes qui suivent une catastrophe est à la fois trop simple et certainement injuste. Il est certes souhaitable d'aller réconforter les sinistrés, mais ce qu'on demande surtout à nos dirigeants, c'est de travailler à prévenir de nouveaux sinistres une fois qu'ils seront de retour à leur bureau. De même, la compétence de nos services publics n'est pas en cause. Le problème, c'est que de tels événements se produisent de plus en plus souvent. Aujourd'hui, la priorité devrait donc être de comprendre l'importance combinée des changements climatiques, du vieillissement des infrastructures et des effets dominos qui s'ensuivent nécessairement. D'autant qu'on sait que de tels phénomènes vont se multiplier. On attendra évidemment les résultats de l'enquête sur la rupture de canalisation à Montréal, canalisation qui datait de 1985 et ne pourrait donc pas être qualifiée d'infrastructure vieillissante, avant de déterminer les causes exactes du sinistre sous le pont Jacques-Cartier. Mais on peut craindre que plusieurs facteurs combinés, dont les changements climatiques, soient en cause d'une manière ou d'une autre. Montréal n'a jamais été sur la carte de la fin de vie des ouragans. Ce n'est plus vrai. L'ouragan Debby vient de le démontrer. En une seule journée, Debby a déversé de 50 à 100 mm de pluie sur la région de Montréal, soit l'équivalent de ce que la ville reçoit normalement durant tout un mois d'août. Ce n'était donc pas un événement prévisible. C'est ce qu'on appelle communément un acte de Dieu. De l'anglais « act of God » ou « un cas de force majeure », notion qui a d'ailleurs beaucoup moins de portée dans le monde des assurances qu'on est tenté de le croire. Il n'y a pas un gestionnaire de fonds publics qui va proposer de refaire toutes les infrastructures pour qu'elles puissent résister à des événements qui n'arrivaient auparavant qu'une fois par siècle. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Il faut dès maintenant se préparer à prévenir les effets d'événements qui seront plus fréquents et surtout plus intenses. Ce n'est pas une préoccupation qui devrait être nouvelle pour nos dirigeants. Dès la campagne électorale de 1993, Jean Chrétien avait reconnu le problème. Les infrastructures urbaines commençaient à vieillir partout au Canada. Il était temps d'investir pour les rénover. Cela a donné sa promesse phare d'un programme national d'infrastructure qui se justifiait également par un taux de chômage élevé. Cette élection devait porter Jean Chrétien au pouvoir et pendant quelques années, il avait réussi à réduire un important déficit tout en investissant dans les infrastructures. Mais la recette a été si populaire que 10 ans plus tard, de nouvelles infrastructures moins essentielles avaient été ajoutées au programme et en ont dilué les effets. Dont des projets pas vraiment structurants comme la rénovation de jardins zoologiques. Comme quoi, les meilleures intentions peuvent être détournées par des impératifs partisans. Mais on reconnaîtra à M. Chrétien d'avoir vu avant bien d'autres la nécessité de rénover les infrastructures dont personne ne voulait se soucier. Comme l'avait dit l'ancien premier ministre à l'époque, il n'y a pas un politicien qui cherche à se faire photographier devant un égout collecteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le Québec, comme le Canada, aurait besoin d'un vaste programme d'infrastructures, non seulement pour réparer de vieilles installations, mais aussi pour prévenir les pires effets des changements climatiques, dont on ne parlait pas encore au siècle dernier. Malheureusement, À Ottawa, on entend beaucoup plus parler de mesures populistes comme l'abandon de la taxe sur le carbone, comme si les mesures visant à limiter les changements climatiques ne sauraient être des priorités quand arrive une année électorale. À Québec, le gouvernement semble privilégier l'envoi rapide de chèques aux sinistrés plutôt que les mesures de prévention des sinistres. Les politiques à court terme, c'est-à-dire celles qui pourraient avoir des effets avant les prochaines élections, sont toujours un enjeu plus important que l'urgence de s'attaquer aux causes. C'était « Acte de Dieu et histoire d'eau », un texte de Michel Séauger paru le 18 août 2024 dans La Presse.
Un matin à la ferme, au bord de la 15. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 12 juillet 2024 dans La Presse. Verveine citronnée, aubergine conte de fées, coriandre vietnamienne, haricots mauves, piment ivoire. Je m'attendais à une visite colorée en me rendant à la ferme de Gilles Lacroix à Laval, mais pas à découvrir autant de légumes et de fines herbes dont je n'avais jamais entendu parler. Des plantes au nom poétique qui m'ont fait réaliser à quel point j'étais un illettré de la chose végétale. L'agriculteur de 78 ans n'a pas pris ombrage de mon ignorance. À bord de son tracteur, dans une nuée d'insectes matinaux, il m'a offert un cours accéléré sur les méthodes de culture traditionnelles qu'il pratique depuis un demi-siècle en bordure de l'autoroute 15. Ici, une rangée de betteraves rouges et jaunes. Là, une famille entière de cucurbitacées. Là encore, des oignons, des choux, du maïs, des tomates. Plus de 75 variétés au total, sans compter les fleurs cultivées dans des serres. J'en ai appris un rayon sur les légumes, mais le but premier de ma visite était plus banal. Je voulais voir, de mes propres yeux, à quoi pouvait bien ressembler la vie d'une ferme en banlieue immédiate de Montréal, dans la troisième ville en population du Québec. Le contexte s'y prêtait bien. L'administration du maire Stéphane Boyer a déposé, mi-juillet 2024, un projet de règlement musclé pour brasser la cage des propriétaires de terres en friche. L'affaire n'est pas si connue. Laval, une municipalité de 438 000 habitants en plein boom, compte plus d'une centaine de fermes. Pas moins de 29 % de son territoire se trouve en zone agricole, mais à peine la moitié de ses riches sols arables sont cultivés. Du vrai gaspillage, selon la ville. Comme l'a révélé La Presse, Laval imposera bientôt une redevance aux individus et entreprises qui restent assis sur leurs terres, souvent depuis des décennies. Il y a dans le lot des boisés, des milieux humides et d'autres terrains impraticables. Mais la ville estime que 1108 hectares de sol en friche pourraient être remis en culture, ce qui est gigantesque une fois remis en contexte. Ces terres, laissées à l'abandon, représentent 11 kilomètres carrés. Pour prendre une image toute locale, elles équivalent à 86 fois la superficie du Carrefour Laval, en incluant le centre commercial et les stationnements environnants. Énorme, vous disais-je. La ferme de Gilles Lacroix, lorsqu'on y regarde de près, ressemble à bien d'autres. Il y a de longues rangées de pousses verdoyantes, j'ai reconnu un épi de maïs, et d'autres sections fraîchement moissonnées. Plusieurs espèces d'oiseaux aussi, dont de magnifiques cardinaux rouges. Mais il suffit de lever un peu le regard pour voir que nous sommes dans un secteur profondément urbanisé. Des maisons unifamiliales et même une tour de condo, à perte de vue. Une mince bande boisée sépare les deux zones, la verte et la blanche. Le vrombissement de l'autoroute des Laurentides, à quelques centaines de mètres, est audible en permanence. « Ça en dérange certains, mais je ne l'entends même plus », me dit-il. L'agriculteur a insisté pour faire un détour au bord du boulevard Sainte-Rose, près du kiosque où il vend le fruit de ses récoltes. Il voulait me montrer le panneau qu'il a installé bien en évidence. « Bienvenue en zone agricole, crédible et permanente ». Car Gilles Lacroix ne fait pas que labourer ses terres. Il se bat depuis des décennies pour la mise en valeur des terres cultivables de l'île Jésus. Il dirige la section lavalloise de l'Union des producteurs agricoles, UPA, depuis 1988. Je n'arrête pas de le dire, on a un trésor à Laval. Il a vu passer bien des maires et des ministres pendant ses mandats successifs. Il a signé quantité de plans de développement, d'ententes et de protocoles en tout genre. Il conserve tous ses documents dans d'immenses cartables, y compris une copie originale d'un discours prononcé par le maire déchu, Gilles Vaillancourt, en 1993. L'homme a entendu bien des promesses au fil des années. Mais l'annonce faite cette semaine par l'administration Boyer pourrait, enfin, donner un vrai souffle à l'agriculture locale, espère-t-il. Il y aura fort à faire. Laval estime que sa nouvelle redevance sur les terres en friche lui rapportera 1,1 million de dollars par année. Ces sommes, assez minimes, serviront entre autres à financer la remise en culture de certains sols. L'objectif sous-jacent, pour ce que j'en comprends, est surtout d'envoyer un message fort aux propriétaires fonciers, surtout à ceux qui attendent depuis des années un hypothétique dézonage pour construire des maisons. Cela n'arrivera pas. Donc, vous faites mieux de vendre vos terres à la ville, leur dit-on, en somme. L'idée sera ensuite de procéder au remembrement de ces milliers de petits lots pour les revendre ou les louer à de vrais agriculteurs qui les cultiveront. Ce serait une première pour une grande ville, si ça fonctionne, et un pari à plusieurs dizaines de millions de dollars pour l'administration lavalloise. Un pari vert foncé. C'était Un matin à la ferme, au bord de la Quinte. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 12 juillet 2024 dans La Presse.